La plupart des militaires qui sont ici, moi vraiment je suis qu'un tout petit maillon de la chaîne, c'est parce qu'ils veulent faire avancer les choses et ils veulent aussi donner du sens à leur travail. Et moi j'essaie de trouver du sens à mon travail et j'ai la chance avec ce détachement des actions civiles militaires de pouvoir quand même souvent sortir, d'être confronté à des situations qui sont diverses, qui permet de casser la routine et surtout de donner du sens au travail. Et je pense vraiment sincèrement, hein, c'est vraiment sincère de réaliser des actions qui permettent de remplir la mission qui m'est donnée, c'est-à-dire l'acceptation de la force à travers des actions civilo-militaires, des projets à destination des civils maliens et qui vont améliorer quand même, modestement certes, mais leur quotidien.
Bienvenue dans le podcast Défense Zone. Dans ce nouvel épisode de notre série sur l'opération Barkhane, nous partons à la rencontre du lieutenant-colonel Nicolas, chef du CMIO, le centre de mise en œuvre de l'influence opérationnelle. Avec lui, nous allons parler d'actions civilo-militaires et découvrir ensemble ce qui est fait dans ce domaine au Mali. Vous pouvez retrouver les autres épisodes exclusifs que nous vous avons réalisés pour vous au Sahel directement dans votre espace premium sur défense-zone.com et en cliquant sur l'onglet Premium. Et n'oubliez pas que vous retrouverez notre dossier complet sur l'opération Barkhane ainsi que des images inédites dans le numéro 3 de notre magazine papier Défense Zone. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Donc nous sommes sur la base de Gao au Mali avec le lieutenant-colonel Nicolas. Est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais ?
Donc je suis le lieutenant-colonel Nicolas, je suis réserviste au sein du 1er régiment de chasseurs et j'ai été projeté sur Barkhane pour tenir le poste de chef du ce qu'on appelle le CMOIO, Centre de mise en œuvre de l'influence opérationnelle, et dont le but est de mener des actions civilo-militaires dans Gao alentour et puis d'orienter la politique des actions civilo-militaires sur le théâtre.
C'est quoi une action civilo-militaire ?
Alors le but est de mener des projets qui permettent de mieux faire accepter Barkhane sur le terrain avec des objectifs qui ne sont pas clairement seulement humanitaires mais également militaires.
D'accord, donc en gros vous allez faire vous allez aider la population locale à faire du développement.
Alors non, le développement c'est un seuil qui est beaucoup plus important. Nous on s'inscrit en dessous de cette dimension du développement qui est vraiment stratégique pour s'inscrire à une échelle beaucoup plus restreinte avec des projets qui peuvent passer par l'aide à des forages de puits, l'électrification de centres sanitaires ou bien aider des maraîchers à amener de l'eau là où il n'y en a pas avec la modernisation de l'irrigation. Cela peut passer également par la réfection d'infrastructures, de marchés des artisans afin donc effectivement d'aider la population mais avec des projets, avec une optique qui est quand même militaire, c'est-à-dire de mieux faire accepter la force Barkhane.
Ça va faire maintenant 10 ans, pratiquement 10 ans que l'opération, enfin que la France est engagée au Mali à travers Serval et Barkhane. L'action CIMIC, c'est quelque chose qui est arrivé dès le début ou ça est arrivé assez tardivement ?
Bon, j'ai pas tous les éléments à ce sujet parce que je ne suis là que depuis quelques mois. En tout cas, depuis le début de Serval, ça je peux pas le dire, mais il y a des actions civilo-militaires qui remontent déjà à 5-6 ans effectivement.
Est-ce que ce sont des actions qui sont pensées aussi au niveau opérationnel, conjointement à une opération, ou est-ce que c'est complètement décorrélé de la partie opérationnelle, on va dire un peu plus pour le coup militaire
Alors cela peut entrer effectivement dans certaines opérations que mène l'armée française, mais je ne peux pas en dire plus, il y a certains détails que je ne peux pas livrer.
D'accord. En France, c'est piloté à Lyon, ça ?
Alors nous avons un centre de formation qui s'appelle le CIAE, centre qui va effectivement entraîner, qui va déterminer la doctrine d'emploi et où des unités, des détachements, des corps de troupes vont parfois dépêcher des éléments extérieurs pour momentanément se former et puis armer des postes qui n'ont pas pu être, on va dire, occupés par des gens du CIAE, effectivement.
D'accord. Est-ce que tu peux me parler des réalisations sur lesquelles tu as travaillé ces derniers mois ici à Gao ?
Alors nous avons une action phare qui s'appelle le TPA, le Travail pour l'Avenir, et qui est destiné à financer la formation professionnelle de 150 jeunes maliens de Gao, Ansongo, Tessit, Labezanga et Gossi. Sur ces 150 jeunes, il y a à peu près une cinquantaine de jeunes filles et Barkhane va leur financer une formation professionnelle pendant 4 mois où pendant ces 4 mois, ils vont aller dans 25 centres de formation professionnelle disséminés dans ces localités que je viens de mentionner et répartis dans 15 filières. Dans ces filières, on peut trouver charpenterie, menuiserie, maroquinerie, on trouve restauration, on va trouver l'informatique, on va trouver également la mécanique, l'électricité. Et le but, c'est d'aider ces jeunes à trouver leur place dans la société en vivant de leur travail. C'est les soustraire aux groupes armés terroristes. Et Barkhane s'inscrit pleinement dans cette reconstruction du Mali du futur en essayant de les responsabiliser, de les autonomiser, sachant que à la fin de ces 4 mois, l'ambassade de France au Mali, à travers ce qu'on appelle le centre de soutien et de crise, armé par un civil qui travaille avec moi, va leur offrir un kit professionnel de plusieurs dizaines de milliers de francs et qui va leur permettre de créer leur entreprise pour devenir parfois des auto-entrepreneurs et puis finalement de s'inscrire, de s'intégrer dans la société et puis de vivre pleinement de façon honnête. Bon, voilà, disons, un gros projet que je n'ai pas initié, que j'ai reçu en héritage de mes prédécesseurs, mais je m'inscris dans leur sillon et j'essaie tous les jours d'animer des comités, des réunions qui vont permettre et durant lesquelles, ces comités vont déterminer quels seront les centres de formation qui sont retenus. Et il s'agit de mettre en relation, par exemple, le gouvernorat de Gao avec la direction régionale pour l'emploi, bon, qui serait la NPE malienne, sachant que ces acteurs-là n'étaient pas forcément intégrés au projet les années précédentes. Donc, quelque part, c'est une micro-action d'aide. À la responsabilisation des autorités maliennes qui s'emparent d'un projet qui a été initié par Barkhane il y a déjà 3 ans, mais dans lequel les autorités maliennes n'étaient pas encore investies. Et donc, quelque part, très modestement, ça permet de participer à ce retour à la gouvernance qui est une expression qui prend tout son sens pour ce genre de projet. Bon, par ailleurs, il peut y avoir le suivi des chantiers pour les maraîchages de Djidara au sud de Gao. On a la réfection du marché des artisans, puisque Gao a la chance d'avoir encore un marché des artisans où on a des femmes également et des hommes qui vont produire des objets tels que ces cadres que l'on voit avec du cuir, avec des tissus, ou bien alors dans la maroquinerie, des portefeuilles. Donc on va les aider par exemple à moderniser leurs infrastructures afin d'être plus autonome professionnellement. Après, il n'y a pas qu'à Gao que tout cela se fait. Nous avons des équipes dans d'autres villes, comme à Tombouctou, où on a également des activités culturelles, parfois, comme le soutien des écoles qui vont permettre à des enfants de pouvoir mieux travailler parce qu'ils vont avoir du matériel scolaire ou bien des actions qui valorisent la langue française. Donc le spectre est vraiment assez varié du micro-projet qui ne coûte pas très cher. Par exemple, déclamations de poésie qui vont exalter les forces maliennes, en passant par des projets plus dimensionnants comme le TPA qui lui coûte beaucoup plus cher et s'inscrit sur 4 mois avec un suivi après pour bien voir si les jeunes sont entrés sur le marché de l'emploi.
Cet argent-là, il est fourni par qui ? C'est un budget de Barkhane qui est alloué à cette action-là ?
Voilà, exactement. Donc, je ne peux pas trop communiquer sur le montant, mais nous avons une ligne budgétaire qui permet de mener ces micro-projets, en allant jusqu'à des projets plus importants et qui vont s'étaler sur plusieurs mois, qui nécessitent un suivi de plusieurs responsables, puisque moi, je répète, j'ai pu recevoir des projets, les développer et je n'en verrai pas la fin parce que je suis là que pour quelques mois.
Pour 4 mois, comme tous les autres militaires ici sur Barkhane, enfin quasiment.
Pour l'ensemble.
D'accord. Ces actions, je suppose qu'elles sont très importantes parce que les groupes armés terroristes recrutent là où il y a de la misère, là où les gens n'ont pas d'avenir ou ont très peu de visibilité sur leur avenir proche et lointain. Comment est-ce que c'est quelque chose qui est monté en puissance ? par rapport à ce que vous avez vu de vos prédécesseurs, ce que vous ont laissé les prédécesseurs.
Je ne peux pas, parler du budget, mais il a augmenté considérablement. Donc on est beaucoup plus confortable dans les procédures également qui sont plutôt rapides, je trouve. Ça nous permet tout de même d'être réactifs et ça permet effectivement d'investir des sommes plus conséquentes pour des projets. Alors après, attention qu'ils doivent toujours s'inscrire dans l'idée qu'il faut soustraire justement la population malienne à la séduction des GATT. C'est toujours dans cette optique-là.
Oui, c'est pas de l'humanitaire pour faire de l'humanitaire, même si c'est pas vraiment de l'humanitaire.
Et j'insiste, c'est très important parce qu'il ne s'agit pas de s'inscrire dans une concurrence avec les ONG civiles. Nous ne sommes pas là pour leur voler leur travail. Elles sont par ailleurs parfois beaucoup plus au courant que nous de certaines problématiques parce qu'elles sont là depuis des années, elles étaient là même parfois avant Barkhane et Serral, donc il est hors de question d'être des concurrents de ces ONG. Donc on s'inscrit dans une autre dimension qui est pleinement militaire. Ouais.
Comment vous perçoivent justement ces ONG? C'est quoi les retours que vous avez?
Alors, théoriquement, je dois avoir une réunion tous les mois avec OCHA, qui est l'organisme qui va, coordonner les interactions de ces ONG. Le but, c'est de se réunir une fois par mois dans ce cadre défini par OCHA pour pas échanger sur nos pratiques, mais dire qui va où sans trahir de secret afin parfois de déconflicter, hein, pour éviter des malentendus, pour éviter que certaines ONG se déplacent au moment où il y a des opérations dans certaines zones, ce qui pourrait conduire à des imbroglios, on va dire. Donc le but, oui, c'est d'assister à ces réunions-là pour pouvoir éviter les problèmes. Bon, j'ai pas eu encore l'occasion de le faire parce qu'à chaque fois j'étais investi sur d'autres événements, donc j'ai pas pu communiquer trop avec elle, mais je suis en lien avec elle par l'internet.
D'accord. Qu'est-ce que vous percevez de, enfin, comment est perçu par la population ces actions-là? Parce qu'on parle beaucoup dans les médias de sentiments anti-français au Mali du fait de cette opération qui s'endurcit aussi. Comment sont perçues ces actions-là? Est-ce que la population est au courant de ça?
Alors, elle est au courant parce que nous communiquons également à ce sujet. Parce qu'il est hors de question d'agir, donc de savoir-faire, sans faire savoir. Hein. Désolé pour cette phrase cliché, mais il faut bien montrer aux populations également que Barkhane agit dans toutes les dimensions, et pour ce faire, eh bien, il faut effectivement communiquer. Nous avons, sans dévoiler notre petite cuisine, mais nous avons des orientations qui nous sont données par l'échelon supérieur. Nous avons des spécialistes qui permettent de mettre en valeur dans le domaine de la communication les actions, hein, que nous allons mener.
D'accord. Dans les médias, en France en tout cas, on n'entend pas tant parler que ça, des actions civilo-militaires. À quoi c'est dû?
Alors moi j'ai une théorie, c'est que les médias reflètent la société, que la société ne s'intéresse pas forcément à ce qui se passe à 3000 km de la métropole. Donc est-ce que c'est la faute, est-ce que c'est notre faute parce que nous ne sommes pas suffisamment communicants? Je ne crois pas. On est tout de même assez actif, hein. Tout le monde n'est pas aussi intéressé par ce qui se passe comme toi. Donc après, les médias vont mener des enquêtes, vont s'intéresser à des choses qui intéressent leurs auditeurs. C'est quelque chose qui m'échappe, hein, mais c'est une théorie, c'est une analyse que je fais personnellement. Et puis après, on a aussi des moyens qui ne sont pas non plus extensibles. Hein. Donc on ne peut pas non plus faire une communication très allant avec des moyens qui sont tout de même réduits.
Bien sûr. Le fait d'entendre le Chinook à côté en train de décoller me fait penser me questionner sur est-ce que les autres nations, alors pas forcément engagées sur Barkhane, mais dans d'autres conflits, par exemple les Américains, est-ce que dans ces armées-là, il y a des actions civilo-militaires aussi de ce
oui.
que tu connais?
Oui, tout à fait. On rencontre régulièrement nos homologues américains, suédois, britanniques, allemands, qui mènent également ce genre d'action civilo-militaire, parce que c'est une dimension qui permet quand même de donner une autre image de la force armée. Je rappelle tout de même qu'on reste dans un cadre qui est clairement militaire, mais la plupart des nations amies et alliées qui sont engagées avec nous dans Barkhane développent également des actions civilo-militaires. Après lesquelles, je suis en lien avec elles, mais je n'ai pas tous les éléments non plus, donc là-dessus je ne pourrais pas trop communiquer. Le but de mon détachement, c'est également de cultiver une collaboration étroite avec les CIMIC des forces armées maliennes, qui ne sont pas très loin de chez nous, avec qui je peux même physiquement me rencontrer. Nous les appuyons en ce sens qu'on essaie de mener ensemble des actions où ce sont elles qui apparaîtront, qui seront mises en valeur, qui apparaîtront en priorité et pour montrer que ces forces armées sont acceptées. Et c'est le cas. Dans la majeure partie des événements que nous avons couverts ensemble, j'ai pu voir qu'elles étaient vraiment bien accueillies par la population qui les considérait plutôt positivement.
Le fait comme ça d'être au contact de la population, de mener des projets sur le long terme, même si vous restez 4 mois, mais derrière il y a quand même un suivi de long terme de plusieurs années, c'est aussi un bon moyen de faire ce qu'on appelle du renseignement. On est quand même dans une logique militaire aussi. Dans quelle mesure cette composante-là fait partie de votre mission ?
Voilà, je vais botter un petit peu en touche parce que en fait tout militaire fait du renseignement. Hein. C'est-à-dire que le mec qui est dans son VBCI et puis qui est pas forcément issu du renseignement, il observe certains événements, il va faire du renseignement. Voilà, donc moi, est-ce que je fais du renseignement ? Oui, mais finalement, comme tout le monde, ce qu'on appelle le compte-rendu d'étonnement, c'est-à-dire sur le trajet qui me mène souvent dans certains lieux à Gao, je me rends compte de quelque chose qui est bizarre, qui sort de l'ordinaire. Bon, ben voilà, c'est une forme de renseignement. Mais le mot, peut-être, est tout de suite, il est affriolant parce qu'on s'imagine les services secrets, Non, les actions civilo-militaires ne s'inscrivent pas du tout dans cette dimension-là, ne serait-ce que parce qu'il faut qu'on se comporte de façon honnête et sincère, parce que ça se perçoit tout de suite. Si on est dans la manip, si on est dans la dissimulation, les gens qu'on a en face et qui ont vécu parfois des événements douloureux, ils le percevront immédiatement. Il faut pas se mentir. Donc c'est pour ça, justement, on nous apprend à rester nous-mêmes, à communiquer, à ne jamais mentir. Voilà, ne rien promettre et ne pas mentir. Et donc pour ne pas mentir, ne pas trop communiquer sur des aspects qui peuvent être un petit peu plus sensibles. Après, pour revenir à ta question, le renseignement, oui, forcément, nous, on a des comptes rendus à faire, bien évidemment, et on va décrire certaines situations, mais ce ne sera pas le renseignement pur que l'on peut imaginer dans d'autres domaines.
Il y a cette partie, renseignement de fait, en quelque sorte. Et il y a aussi cette partie d'influence, parce que c'est une région du monde qui est fortement sous influence de plein de nations, comme la Turquie, la Russie, la Chine, etc. En Afrique, en tout cas. Comment tu perçois ça et, je me doute que c'est encore quelque chose d'un petit peu sensible. Et dans quelle mesure ça fait partie du boulot ?
Alors bon, c'est un domaine sensible, oui et non. C'est-à-dire que c'est une réalité. À partir du moment où l'argent de la force est dépensé pour des actions civilo-militaires, il y aura une dimension de communication évidente. Donc c'est pas du tout un secret. Et au contraire, je dirais que le contribuable français peut se satisfaire de savoir que son argent est utilisé à bon escient et pour valoriser, mettre vraiment en avant ce que l'on fait, parce qu'il s'agit aussi de, oui, comme tu l'as dit, de changer la perception de l'opinion publique en général. Hein, il y a différents destinataires. Je ne veux pas trop non plus entrer dans les détails de nos modes de fonctionnement, j'en ai pas l'autorisation, mais il s'agit bien de promouvoir l'action de la force et de mettre en valeur effectivement aussi nos partenaires FAMA. Après, dans les techniques de communication, non, là je suis pas trop habilité à.
Sans rentrer dans le détail de la communication, le simple fait de venir en aide à la population, de les aider, de les assister sur certaines choses, c'est un peu la technique numéro 1. Faire de l'influence. On voit ce que font les Chinois avec les créations d'infrastructures, l'Arabie Saoudite ou la Turquie avec la création de centres commerciaux ou ce genre de choses, de rénovation de bâtiments, etc. Il y a cet objectif-là aussi, un peu sous-jacent.
Le soldat français, lorsqu'il débarque de son véhicule, déjà il est dans une posture qui fait qu'il est perçu positivement ou négativement s'il agit mal, et positivement parce qu'on lui aura dit que, attention, le ramadan ayant commencé par exemple hier, eh bien, il s'agit de ne pas se comporter de n'importe quelle façon dans un pays majoritairement musulman. Donc l'influence, elle commence en fait par là, mais ça paraît une évidence, là j'enfonce une porte ouverte. Et puis après, il y a, je répète, des techniques un petit peu plus, recherchées, mais sur lesquelles, là pour le coup, je ne peux pas m'exprimer.
Est-ce que vous formez les militaires qui partent en opération sur le terrain, en mission, à certaines techniques pour justement séduire, utilisons le mot, la population pour réussir à faire passer une action qui peut être perçue comme étant assez troublante. Là, il y a quelques jours, j'étais avec le GTD Chimère qui est sur le terrain, et le fait de couper la population, couper une circulation, d'arrêter les gens, de les fouiller, de les laisser comme ça en plein soleil, même s'ils leur donnent de l'eau, etc., ça reste quand même assez perturbant quand on est dans son propre pays de voir des forces armées faire ça. Est-ce qu'il y a une partie formation en interne, en quelque sorte? C'est-à-dire, est-ce que tu vas intervenir auprès des jeunes qui partent, parce que certains viennent de terminer leur classe quasiment, pour faire du simique à leur niveau?
Alors moi, personnellement, c'est pas forcément moi qui vais intervenir, mais ils reçoivent une sensibilisation sur le comportement, la posture. Alors, une nouvelle fois, c'est l'intelligence de situation qui doit prédominer. On va pas jeter de sacs poubelles dans le désert parce que c'est vide, il n'y a pas d'habitants. Voilà, parce que ça peut se retourner contre nous. On va pas jeter des bouteilles d'eau vides. Mais après, ça, c'est aussi de la responsabilité du commandement des cadres de contact avec les militaires qui sont projetés sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils doivent aussi être sensibilisés par leur commandement sur ce qu'on appelle la posture, le profil à adopter, et qui tient compte effectivement de l'environnement. Donc après, il y a une doctrine effectivement qui est déclinée à tous les échelons du commandement. Et c'est au cadre d'avoir l'intelligence en fonction du contexte, des lieux, du temps, d'adapter le comportement de leurs hommes.
Quand on voit les conflits passés, je pense par exemple au Vietnam, en l'Afghanistan, on se rend compte que c'est impossible de gagner une opération, gagner une guerre, si on n'a pas le soutien de la population. C'est quelque chose qui drive tes actions au quotidien, la stratégie à long terme?
Bon, là, on entre dans le domaine de l'histoire également. Je n'ai pas la prétention de dire que je saurais si c'est le facteur premier de la victoire ou de la défaite des conflits que tu as mentionnés. Mais oui, ça me guide. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir toujours en tête que nous sommes dans un État souverain qui nous a appelés pour lui venir en aide, qui n'a pas les moyens, qui n'a pas eu les moyens à certains moments de pouvoir se assurer sa propre sécurité. Mais nous sommes dans un État souverain et on doit s'adapter aux coutumes. Donc oui, en permanence, je garde à l'esprit que je ne fais pas ce que je veux. Il faut parfois faire des compromis. On voudrait que cela avance plus vite. Mais les autorités avec lesquelles moi je travaille sont souveraines, et donc c'est aussi à moi d'adapter mon comportement. C'est une obligation, bien évidemment. Parfois il faut se réfréner, on voudrait que ça fonctionne plus rapidement, mais il y a des proverbes, de nombreux proverbes maliens qui nous renvoient à notre précipitation occidentale, et ça, j'essaie de l'intégrer effectivement.
Est-ce que personnellement, ou est-ce que ton équipe aussi se forme aux techniques de développement, même si c'est pas ce que vous faites? Est-ce que tu t'inspires de ce que font les ONG pour justement être capable d'apprendre à faire tout ça?
Oui, on est formé effectivement au CIAE à gérer des projets, mais quand je dis gérer, dans la pleine acceptation managériale du terme, hein, place. C'est-à-dire à développer des techniques financières. Nous sommes comptables des deniers de l'État, donc il faut respecter certaines procédures. C'est pas toujours évident parce que les commissaires, donc les financiers des armées, ont des comptes à rendre également. Et donc oui, on doit s'intéresser à cette partie-là du travail qui est assez aride, qui est assez administrative. Les procédures sont parfois compliquées. Après, avec l'expérience, cela déroule tout seul. Et puis, je dirais que, comme toujours, c'est le contact humain qui arrange bien des choses. Le fait de connaître les personnes en charge des finances, le fait de se rendre mutuellement des services, on va passer sur des petites erreurs procédurières et ça fonctionne beaucoup plus comme cela. Ouais.
Le fait que tu sois réserviste, donc civil la plupart du temps, on va dire, et que dans ton équipe, il y ait aussi pas mal de réservistes, c'est quelque chose qui est… c'est le hasard qui a fait ça, ou est-ce que c'est une volonté de la cellule d'avoir des réservistes, donc des gens qui sont plus civils que militaires?
Les deux, mon capitaine, si je puis dire, parce que il y a une part de hasard, clairement. On ne peut pas non plus avoir une ressource humaine disponible à ce moment-là, donc… Ça peut être le hasard, effectivement, mais c'est aussi un calcul, c'est-à-dire faire travailler des actifs avec des réservistes pour qu'il y ait une synergie, pour que les compétences soient partagées.
Pour terminer, je pose cette question à tous les invités de ce podcast. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de s'engager dans cette mission, de faire de l'action civilo-militaire en opération ou à se former en métropole?
Bon, déjà, il faut avoir envie. Il faut avoir envie d'aller sur un théâtre qui est quand même, comme on dit, abrasif. C'est une remise en cause. Et pour répondre à ta question, je dirais, il faut quand même faire preuve d'ouverture d'esprit. Il faut être favorable à accepter des façons de fonctionner, de penser. Bon, ce que je dis, encore une fois, c'est cliché, mais il faut vraiment être ouvert d'esprit et accepter des différences qui peuvent parfois piquer les yeux parce qu'on n'est pas préparé, mais avec franchement la bonne volonté, le sérieux dont le militaire de base fait preuve, parce que c'est aussi un métier tragique où on est confronté parfois à des horreurs et à la mort, font que le travail sera réalisé de façon sérieuse. Et la plupart des militaires qui sont ici, moi vraiment je suis qu'un tout petit maillon de la chaîne, c'est parce qu'ils veulent faire avancer les choses et ils veulent aussi donner du sens à leur travail. Et moi j'essaie de trouver du sens à mon travail, et j'ai la chance avec ce détachement des actions civiles militaires de pouvoir quand même souvent sortir, d'être confronté à des situations qui sont diverses, avec des gens qui sont pas forcément intéressants, qui sont parfois pénibles, mais qui permet de casser la routine et surtout de donner du sens au travail. Et je pense vraiment, sincèrement, hein, c'est vraiment sincère, de réaliser des actions qui permettent de remplir la mission qui m'est donnée, c'est-à-dire l'acceptation de la force à travers des actions civilo-militaires, des projets à destination des civils maliens, et qui vont améliorer quand même, modestement certes, mais leur quotidien.
Tu te dis jamais que c'est, quand tu dis c'est modeste, est-ce que c'est pas une goutte d'eau, est-ce que c'est pas une petite rustine posée sur un gros trou?
Moi je suis le chef donc de ce détachement, donc très modestement, hein, je peux pas non plus dévoiler mon dispositif, mais la rustine elle a quand même son utilité, et moi je crois en ce que je fais, c'est sûr. Et ma petite rustine, j'y crois, et en tout cas il faut dire aux auditeurs que ma petite rustine elle est bien entretenue, j'en ai plein en réserve, parce qu'on est imaginatif, on est créatif, et bon, moi il se trouve que j'ai la chance de pouvoir travailler avec une équipe qui est quand même très solide, où on s'entend très bien, et ça aussi ça permet de fonctionner beaucoup plus efficacement et surtout rapidement, parce que on est un peu au carrefour de plein de pressions, et il s'agit de ramer tous dans la même direction, et c'est le cas avec mon équipe qui est également constituée de deux autres réservistes et d'un personnel d'active, et on travaille, moi je trouve en tout cas, efficacement. Après c'est mon échelon supérieur lors de ma notation qui me dira si ça a été le cas, mais moi je reste persuadé qu'on a fait du bon boulot, et surtout on a vraiment essayé de trouver du sens à ce qu'on faisait, et je pense que c'est le cas. Après, je répète, moi je suis lucide, et surtout j'essaie de rester modeste, je m'inscris dans un sillon qui a été tracé par mes prédécesseurs, hein. Je suis vraiment qu'un maillon de la chaîne, mais j'essaie quand même de conserver sa cohérence à l'ensemble du dispositif des actions civilo-militaires.
Effectivement, ce que je voulais dire, c'était plus quand on sait que potentiellement la sécurité ici peut se dégrader et j'allais dire tout va tomber à l'eau, non pas forcément, mais je veux dire quand on sait que tout peut basculer et que tout le travail qui a été fait peut ne plus avoir les effets escomptés, comment c'était plus ça le sens de ma question. Je suppose que les projets sur lesquels vous travaillez ont des résultats probants. Est-ce [S2] Oui. [S1] Que vous pouvez m'en parler ?
Oui, alors est-ce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain ? Qui peut le prédire ? Alors là, moi, je resterai très, très prudent. En revanche, dans mes entretiens avec différents acteurs de Gao, on traite avec des associations de jeunesse qui sont très, très demandeuses hein, de nos projets. Puis c'est l'avenir du Mali. Et l'un de ses responsables me disait, mais il faudrait, au-delà de tout ce que vous faites, et c'est bien, mais vous choisissez toujours les mêmes domaines, hein, la santé, le sport, le divertissement, les infrastructures. Il pourrait y avoir aussi des actions un peu plus, entre guillemets, de verdissement de Gao, puisque là, pour le coup, il s'agit de Gao. Et ce jeune, très investi, me disait, mais planter des manguiers. Ah bon, le manguier, pourquoi ? Parce que la mangue, c'est particulièrement délicieux. Non, parce que en fait, le manguier, c'est un arbre qui est résistant, paraît-il. Bon, moi, je n'y connais rien. Planter des arbres, chaque équipe qui viendrait planterait plusieurs arbres. L'arbre, même si la situation devait basculer, ne sera jamais saccagé par quelques communautés, quelques partis politiques, quelques mouvements que ce soit, parce que c'est trop précieux ici. Et il me disait, quelque part, ces petits manguiers, ils vont pousser, ils donneront des fruits, mais ce n'est pas ça qui compte, c'est qu'il y aura un panneau Barkhane qui restera ou qui ne restera pas, mais les arbres, eux, ils resteront. Donc, c'est peut-être un peu poétique, mais je trouve que cette image a été parlante, parce que, en plus, c'était dit avec beaucoup de sincérité de la part de ce jeune qui a une trentaine d'années et qui était parfaitement conscient des efforts hein, que fait Barkhane en termes d'action civilo-militaire, mais qui lui raisonnait à beaucoup plus long terme, parce que les arbres, si on les plante relativement jeunes, lui-même il les verra pas pousser, donc c'est pour les générations futures. J'ai trouvé l'image belle et quand même qui résume assez bien les actions civilo-militaires, parce que le puits, sauf à le boucher, ce que personne ne va faire dans ce pays, personne n'est fou à ce point-là, il restera. Le panneau Barkhane disparaîtra peut-être ou pas, parce qu'on a beaucoup, une partie de la population qui réellement apprécie notre présence. Et ce sera un symbole fort. Ça, ce sont des symboles qui restent, je pense, profondément enracinés. Là, pour le coup, l'image, voilà, encore un cliché, mais l'image, je trouve qu'elle est encore assez parlante et elle correspond à ce qu'on fait sur le terrain.
Très bien. Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté cet entretien jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver les autres épisodes exclusifs que nous avons réalisés pour vous au Sahel directement dans votre espace premium sur défense-zone.com en cliquant sur l'onglet Premium. A bientôt pour un nouvel épisode du podcast.